Vous écoutez France Culture.
De la fabrique de l'histoire avec vous, Emmanuel Laurentin, bonjour.
Oui, bonjour, et aujourd'hui nous continuons sur Jeanne d'Arc. Nous allons nous intéresser au procès de Jeanne d'Arc. Quatrième et dernier temps, déjà, on s'attache à son sujet sur Jeanne d'Arc à l'occasion du 600e anniversaire de sa naissance. Depuis lundi, nous avons évoqué avec Gerd Kromaisch les usages politiques, culturels et sociaux de la figure de Jeanne d'Arc au 18e, 19e et 20e siècle. Nous avons raconté ce qu'on pouvait savoir de la jeunesse de Jeannette dans un documentaire de Perrine Kervran et Véronique Savoyloff à réécouter, comme toutes les émissions de France Culture, en particulier de la Fabrique de l'Histoire, sur le site www.franceculture.fr pendant 1000 jours à télécharger pendant une semaine, et vous pouvez également laisser sur ces pages vos commentaires ainsi que sur le groupe des amis de la Fabrique de l'Histoire sur un réseau social bien connu. Et hier, nous avons expliqué avec trois spécialistes les batailles et combats militaires de Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, il est temps de nous arrêter dans le débat du jeudi sur ce que nous savons du procès de 1431 et aussi évoquer évidemment le procès de réhabilitation un peu plus tardif et également ce que nous savons du statut de prophétesse au 14e et 15e siècle. Car Jeanne d'Arc fut annoncée dans ses temps troublés par diverses prophéties et considérée elle-même, selon le camp dans lequel on se situait à l'époque, comme une vraie ou comme une fausse prophétesse. Nous en parlerons avec Perrine Kervran, qui a préparé cette semaine avec nous, avec trois spécialistes de cette question, et nous serons soutenus et aidés par les textes du procès lus pour nous par Nathalie Canoui. Avec nous donc Colette Beaune, historienne du Moyen-Âge, spécialiste du sentiment national, biographe de Jeanne d'Arc, et qui a bataillé contre les mensonges et interprétations fallacieuses sur Jeanne d'Arc dans un livre qui s'intitulait « Jeanne d'Arc, vérités et légendes » qui vient de paraître aux éditions Perrin en poche dans la collection Tempus avec André Vaucher. Il est historien du Moyen-Âge, spécialiste de la sainteté, et il vient tout juste de diriger un ouvrage au Seuil qui vient tout juste de sortir la semaine dernière qui s'intitule « Prophète et prophétisme ». Et puis également, nous aurons avec nous depuis les studios de Radio France à Rouen, Jean Maurice. Il est professeur à l'Université de Rouen de littérature médiévale et il a travaillé en particulier sur Catherine de Pisan et ce que dit Catherine de Pisan de Jeanne d'Arc. Christine. Pourquoi ai-je dit Catherine de Pisan? Je ne sais pas, voilà.
C'est Sainte-Catherine.
C'est Sainte-Catherine qui m'a parlé et qui m'a dit de dire son nom tout de suite. Bonjour Colette Beaune, merci de m'avoir rectifié dès le début de cette émission. Donc Colette Beaune, il est important de s'arrêter alors qu'on va traiter de la fin de la vie de Jeanne d'Arc, cette brève existence, donc de s'arrêter sur cette question des procès en mélangeant les deux thèmes, donc à la fois la question des procès, de ce qu'on a reproché à Jeanne d'Arc, mais aussi cette question qui a été traitée dans ce livre par André Vaucher et ceux qui ont travaillé avec lui, la question du prophétisme.
Les procès de Jeanne d'Arc sont des procès pour hérésie, donc en principe pas pour prophétisme, puisque l'Église admet fort bien l'existence de prophètes. Le tout est de savoir si on est un vrai prophète ou un faux prophète, si les voix que vous entendez sont celles de Dieu ou celles du diable. Mais à part ça, l'Église l'admet, l'Université de Paris l'admet, et même en 1413, il y avait eu une lettre célèbre de l'Université de Paris à tous ceux qui auraient le don du prophétie de venir communiquer à la dite université les messages éventuels de Dieu sur l'avenir de la France. Donc tout le monde admet l'existence de la prophétie.
Mais il faut savoir si on est un faux prophète ou un vrai prophète. Alors vous revenez sur ces questions, André Vaucher, dans ce livre qui est absolument fascinant, passionnant, parce que c'est un sujet qui est connu évidemment de tous les spécialistes du Moyen-Âge, mais pas forcément de tous ceux qui ne s'intéressent pas directement à cette période. Donc ces aléas, pourrait-on dire, de la prophétie tout au long du Moyen-Âge, des périodes où on est favorable à ces prophètes, d'autres périodes où on les récuse, des périodes où on choisit des vrais prophètes et d'autres périodes où on choisit des faux prophètes, des périodes où les prophètes sont là pour annoncer la fin des temps, d'autres périodes où ces prophètes sont là pour dire, disons, le camp que l'on peut choisir en matière politique, par exemple, André Vaucher.
Exactement, parce que le prophétisme est une dimension fondamentale du judéo-christianisme. Et donc, il y a eu des hauts et des bas, mais il a toujours été présent, soit à l'arrière-plan, soit parfois, comme à la fin du Moyen-Âge, au premier plan. Et il est surtout au premier plan dans les périodes de crise, lorsque, disons, l'institution Église, mais aussi les institutions politiques, entrent en crise. Parce qu'à ce moment-là, on se souvient qu'il y a aussi une dimension, on dirait aujourd'hui charismatique, dans le christianisme, une dimension prophétique. Et alors, on est plus ouvert à écouter leurs messages, alors qu'en temps normal, surtout au Moyen-Âge, l'institution tient absolument à garder le contrôle, disons, de ces interventions humaines mais qui prétendent se rattacher à Dieu.
Périne Cavran.
Oui, parce que pour que les auditeurs comprennent bien, il faut rappeler que Jeanne donc, arrive à Chinon, elle veut voir donc, Charles VII pour annoncer quelque chose, annoncer que Orléans sera libéré, annoncer qu'elle fera sacrer le roi, qu'il sera sacré à Reims. Et c'est en quelque sorte à partir de là qu'elle prend un statut de prophétesse, sachant que les politiques à l'époque aimaient s'entourer de ces prophètes.
Colette Beaune. Oui,
on a toujours l'impression que Jeanne d'Arc est une absolue anomalie. C'est pas vrai du tout. Enfin, c'est une anomalie, bien sûr, parce que nul ne lui ressemble. Mais il y a bien une dizaine de prophètes et de prophétesses entre les années 1350 et 1450, donc dans la période de crise maximum, qui sont allés trouver le roi, en général le pape parfois, de la part de Dieu pour délivrer un message. Autrement dit, Jeanne appartient à une série. Elle n'est pas
unique.
Unique, non. C'est la plus extraordinaire de la série, ça, tout à fait d'accord, mais elle appartient à une série.
André Vaucher, c'est important que de le dire. J'ai rappelé justement cette généalogie de ce statut dans la société médiévale.
Effectivement, des prophètes, il y en a toujours eu. La nouveauté de la fin du Moyen-Âge, ce sont les prophétesses qui se bousculent, j'allais dire, puisque rien que dans les textes contemporains de Jeanne d'Arc, on en signale au moins quatre en France.
Alors, ça n'est pas toujours très bien vu, parce que Gerson, par exemple, vous dites dans votre livre « Prophète et prophétisme » qui vient de paraître au Seuil, Gerson, donc, qui est le recteur de la faculté de
chancelier de l'Université de Paris,
la
plus haute autorité en matière théologique de la chrétienté.
Il a écrit deux traités sur les prophéties, deux traités sur les fausses prophéties, un en 1415 et un en 1423, juste avant le début de l'aventure de Jeanne d'Arc. Et il se méfie de ce qu'on peut traduire des petites femmes, les Mulieres Culae, qui sont ces femmes qui disent qu'elles sont des prophétesses, André Vaucher.
Voilà, parce que tout cela est évidemment très complexe. Gerson vise surtout Sainte Brigitte, puisque la première prophétesse vraiment importante...
Sainte Brigitte de Suède.
Brigitte de Suède, donc nous sommes là au milieu du XIVe siècle, elle est morte en 1373, et disons qu'elle avait, dans son livre des révélations, il y avait un certain nombre de textes qui étaient des prises de position dans la guerre de Cent Ans, dans le contentieux qui opposait la France et l'Angleterre.
Plutôt pro-anglaise.
Elle était plutôt pro-anglaise, voilà. Donc elle était mal vue en France. C'est dans ce seul pays d'Europe, la France, où ses œuvres n'ont pas été traduites en langue vulgaire. C'est quand même assez significatif. Et puis la deuxième, c'était Catherine de Sienne, dont on disait, tout en exagérant un peu son rôle, que c'était elle qui avait fait revenir le pape d'Avignon à Rome. Et comme les Français étaient du côté de la papauté d'Avignon, ils gardaient évidemment un chien de leur chienne à cette Catherine de Sienne qui a été si longtemps très mal vue chez nous.
Périne Caron.
Oui, et puis il faut peut-être dire aussi, ça on ne le sait pas toujours, que les cours, les politiques, aimaient s'entourer de ces prophètes. C'est-à-dire qu'on recherchait un prophète, parfois pour l'instrumentaliser.
Absolument. Je crois qu'il faut situer le prophétisme, cette espèce de crue du prophétisme qui caractérise la fin du Moyen-Âge, dans une perspective aussi d'essor de la futurologie. C'est-à-dire que les princes, les rois, essayent de connaître l'avenir. Ça fait partie de la politique, de connaître l'avenir. Et ils s'entourent d'une part de prophétesses ou de prophètes de cour. Par exemple, Saint François de Paul autour de Louis XI et de Louis de Charles VIII, etc. Et puis d'astrologues. Et les deux, contrairement à ce que nous imaginons, ne sont pas contradictoires. Le prince a son astrologue et sa prophétesse ou son prophète.
Colette Beaune.
Et d'ailleurs, c'est pour ces nombreuses prophétesses que Gerson va mettre au point des procédures d'authentification. Et nous savons que Jeanne d'Arc, quand elle est arrivée à Chinon, a été soumise à des examens qui reprennent exactement ce que Gerson avait prévu, c'est-à-dire on s'assure que la personne est saine d'esprit, est vierge, ça pas obligatoirement, mais c'est quand
mieux.
Même un plus.
C'est mieux.
Un c'est toujours
plus,
mieux.
Mettons. Et puis aussi que Elle persiste dans ses dires, ça c'est très important, que rien de ce qu'elle dit n'est contraire à la foi, bien évidemment. Et donc, il y a à la fois un examen de ce qui est dit et de la personne.
Oui.
Et c'est si les deux vont ensemble que la prophétesse est admise.
Oui, c'est-à-dire que Gerson, d'une certaine façon, donne une sorte de manuel qui n'est pas un manuel des confesseurs, mais un manuel de comment définir les vrais,
déontologie
les vrais et les faux prophètes. Donc, il faut que le prophète André Vaucher soit humble, soit discret. C'est un peu raté pour la discrétion pour Jeanne d'Arc. Il faut qu'il soit patient.
Enfin, c'est pas de sa faute.
Il faut qu'il ait l'amour de la vérité. Il faut qu'il soit charitable aussi. C'est ça, voilà, André Vaucher, les cinq qualités du prophète ou de la prophétesse.
Il ne faut pas oublier comme le prophète ou la prophétesse se pose comme un envoyé de Dieu. Donc, c'est quand même déjà pas rien. Il y a un aspect messianique dans le prophétisme. Hein. Donc, envoyé de Dieu et puis d'autre part, parlant de la part de Dieu. Alors, c'est là que l'Église intervient par l'intermédiaire des théologiens. Est-ce que vraiment cette parole prophétique est d'origine divine ou diabolique?
Alors, j'ai promis qu'on pourrait écouter quelques-uns des extraits, justement, de ce procès de 1431, ce procès qui allait condamner Jeanne d'Arc. Procès d'office, deuxième interrogatoire public, 22 février 1431, Nathalie Canouille.
La dite Jeanne étant ensuite introduite devant nous au dit lieu, nous l'avons requise et exhortée qu'elle jura de dire la vérité, absolument et simplement, sur tout ce qui lui serait demandé dans la matière dont elle était accusée et diffamée. À quoi elle répondit qu'hier elle avait fait serment et qu'il devait suffire. Alors nous l'avons requise de jurer. Personne en effet, même un prince, interrogé en matière de foi, ne peut refuser de faire ce serment. Elle répondit de nouveau « Je le fis hier, votre serment, et il doit bien vous suffire. Vous me chargez trop. » Vous me pourriez bien demander telle chose sur laquelle je vous répondrai vérité, et sur une autre, je ne vous répondrai pas. Et elle ajoutait, si vous étiez bien informé de moi, vous devriez vouloir que je sois hors de vos mains. Je n'ai rien fait que par révélation. Interrogée si dans sa jeunesse elle avait appris quelque métier, dit que oui, coudre des draps de toile et filer. Et elle ne craignait point femme de Rouen pour filer et coudre. Ensuite, elle a déclaré que sur l'âge de 13 ans, elle eut une voix de Dieu pour l'aider à se gouverner. Et la première fois, elle eut grand peur. Et vint cette voix quasi à l'heure de midi environ, en temps d'été, dans le jardin de son père. Et la dite Jeanne n'avait pas jeûné la veille. Elle entendit la voix du côté droit, vers l'église. Et rarement elle l'ouïe sans clarté. Cette clarté est du même côté où la voix est oui. Interrogée, comment elle pouvait voir cette clarté qu'elle disait être là, puisque cette clarté était sur le côté? Elle ne répondit rien et passa à autre chose. Et elle dit qu'il lui semblait qu'elle était digne voix, et croit que cette voix lui était envoyée de la part de Dieu. Et après qu'elle l'eut ouïe par trois fois, elle connut que c'était la voix d'un ange. Ensuite, elle confessa que cette voix lui disait qu'elle vienne en France, et elle ne pouvait plus durer où elle était, et que cette voix lui disait qu'elle ferait lever le siège mis devant Orléans. Item requis de dire par quel conseil elle avait pris Abidom. À cela, elle refusa plusieurs fois de répondre.
Alors, ceux qui interrogent Jeanne en ce 22 février 1431, André Vaucher, ils ont bien lu Gerson, puisque Gerson dit qu'il faut se méfier de ces questions. Quand on a jeûné la veille, on peut avoir des visions, on peut avoir des choses ou entendre des voix. En tous les cas, il faut savoir si on a jeûné la veille pour pouvoir vérifier si on est vrai ou faux prophète, André Vaucher.
Oui, le problème, c'est que dans le texte qui vient d'être lu, c'est le mot-clé, c'est révélation.
Eh oui.
Il s'agit de savoir si une révélation divine, ça existe, l'Église ne le nie pas, mais est-elle authentique, est-elle fondée? Voilà, donc les docteurs universitaires et les inquisiteurs s'instaurent en juge, pas de la validité ou non, de cette révélation. Et c'est donc
D'abord, il y a des précautions, effectivement. Il ne faut pas, évidemment, que la vision ait lieu ou la révélation en état d'ébriété, par exemple. Donc, le jeûne, c'est important.
Il y a une procédure, donc.
Voilà, il faut quand même qu'il y ait eu au moins un jour de jeûne avant pour que ça soit valable, mais ça ne suffit pas.
Alors, sinon, on peut savoir, Colette Beaune, que la question de la clarté qui est posée, eh bien, ça pose le statut de savoir si elle était annoncée par un prophète ou par des prophètes, ou si elle était elle-même une prophétesse, puisqu'elle dit on va lever le siège d'Orléans, elle annonce cela. Donc on se pose la question de ce statut à ce moment-là, et on se dit est-ce qu'elle est quelqu'un qui est une sorte de d'avant-garde, annoncée par des gens qui la voient venir d'une certaine façon, qui savent qu'elle va arriver, ou au contraire, est-ce qu'elle est elle-même prophétesse?
De toute façon, c'est la même question. Je veux dire, toute prophétesse est obligatoirement annoncée.
Voilà.
Annoncée par des textes, annoncée par d'autres prophétesses. Le Christ avait été annoncé par Saint Jean-Baptiste. Et il faut repérer des annonces. Et d'ailleurs, les conseillers de Charles VII fabriqueront des dossiers prophétiques à propos de Jeanne d'Arc sur toutes les annonces antérieures à elle qu'il annonçait. Alors, il y a des annonces dont on ne doute pas. Je veux dire, certains textes ont bien circulé avant 1429. Et puis, on fabriquera aussi, bien évidemment, des textes qui collent exactement à Jeanne d'Arc, qui, eux, datent du printemps de 1429,
oui,
bien sûr.
Et donc, qui permettront, d'une certaine façon, de faire semblant de croire qu'elle est arrivée à l'annonce de Dieu.
Pas exactement, de montrer que c'est bien elle qui correspond à l'annonce.
Exactement.
Et non une autre.
C'est ça.
Et puis, alors, le deuxième point, c'est le problème du signe. Tout prophète est muni d'un signe. Alors ce signe, ça peut être simplement une marque sur la peau, une croix sur l'épaule droite, par exemple, c'est très fréquent. Mais ça peut être aussi un signe futur. Et dans le cas de Jeanne d'Arc, c'était un signe futur, je délivrerai Orléans. Et tant que le signe n'est pas arrivé, eh bien tous les conseillers sont très embarrassés. Comment croire à un signe futur ?
Périne Caron.
Oui, d'ailleurs, il y a aussi ces évocations d'une tache rouge qu'elle aurait eue près de l'oreille. C'est-à-dire que les gens sont à la recherche, effectivement, de signes physiques, d'autres signes qui pourraient permettre de ne pas attendre jusqu'à la révélation de cette prophétie.
André Vaucher.
Oui, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'époque, les prophéties, en général, se sont tellement répandues en Occident qu'il y a une véritable bataille autour des prophéties. Ouais. C'est-à-dire chaque camp a ses prophètes et fabrique éventuellement de fausses prophéties à l'appui de sa cause.
Alors, les
Anglais avaient commencé dès le XIVe siècle, mais les Français n'ont pas tardé à emboîter le pas, et en particulier, il y a tout un débat autour de Merlin.
Alors voilà, Merlin, il y a un Merlin anglais et un Merlin français. Vous pouvez nous résumer cette question-là, parce que c'est une question importante. On l'avait évoqué dans les émissions précédentes de Périne Cavran, le documentaire en particulier de mardi. Voilà, ce Merlin, pourquoi ce Merlin ressurgit-il à ce moment-là, et comment est-il utilisé à la fois par la monarchie, la double monarchie anglaise, et puis la monarchie française, André Vaucher.
Alors Merlin, c'est une longue histoire, puisque ça commence au XIIe siècle, au point de vue littéraire, avec Geoffroy de Monmouth, c'est l'histoire des rois de Bretagne, de Grande-Bretagne, dans lequel il y a un texte prophétique qui sera réutilisé à l'époque de Jeanne d'Arc, avec le bois de Canut, et qui deviendra le bois chenu. Enfin bon, on pourra revenir là-dessus après. Mais en tout cas, tout au long du Moyen-Âge, après, on met Merlin à toutes les sauces. Merlin, c'est l'enchanteur, c'est le devin. Et donc, il va être récupéré par toutes les causes. Au temps de Frédéric II, par exemple, il y a des prophéties, des paroles de Merlin qui annoncent soit que Frédéric II va l'emporter sur le pape, soit que le pape va écraser Frédéric II. Bref, il y a une tradition
d'usage politique
de Merlin. Et alors, ça rebondit évidemment au moment de la guerre de Cent Ans, où les Anglais vont utiliser Merlin contre les Français, et les Français essaieront de retourner les prophéties de Merlin.
D'abord, Merlin, c'est très obscur, donc on peut à peu près, c'est un peu comme Nostradamus, je dis, faire dire n'importe quoi, enfin voir derrière les textes des événements très différents et des localisations très différentes. Et puis, Merlin n'était pas un devin anglais, mais un devin des Bretons. Donc on pouvait très bien penser que Merlin était anti-anglais.
Oui, donc
c'était pas si absurde que
Breton,
ça.
Anti-saxon, voilà. Anti-saxon, voilà. Et en ce sens anti-anglais.
Deuxième texte qui nous est lu par Nathalie Canouy. Procès de condamnation, procès d'office, troisième interrogatoire public, 24 février 1431, quatrième jour.
En leur présence, nous avons d'abord requis la dite Jeanne de dire simplement et absolument la vérité, sans apporter aucune réserve à son serment. Et de ce faire, nous l'avons admonestée par 3 fois. Item, elle dit à nous, évêque, « Vous dites que vous êtes mon juge, avisez-vous bien de ce que vous faites, car en vérité je suis envoyée de par Dieu, et vous vous mettez en grand danger. » Interrogée si cette voix n'a point changé parfois d'avis, répondit qu'elle ne l'avait jamais trouvée en 2 paroles contraires. Elle ajouta que cette nuit, elle lui avait entendu dire qu'elle répondit hardiment. Interrogée si la voix lui interdit de dire tout ce qu'on lui demanderait, dit « Je ne vous réponds point là-dessus, et j'ai grande révélation touchant le roi que je ne vous dirai pas. » Alors on lui demande si la voix à qui elle demandait conseil avait la vue et des yeux, répondit « Vous ne l'aurez pas encore. » Et dit que le dicton des petits-enfants est « On pend bien quelquefois les gens » pour avoir dit vérité. Interrogée si elle sait qu'elle est en la grâce de Dieu, répondit « Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre. Et si j'y suis, Dieu veuille m'y tenir. Je serais la plus dolente du monde si je savais n'être pas en la grâce de Dieu. » Dit en outre que si elle était en péché, elle croit que la voix ne viendrait pas à elle et voudrait que chacun l'entendît aussi bien qu'elle. Item dit qu'il y a un bois chenu, qu'on voit de lui, de sa maison, de son père. Il n'y a pas la distance qu'une demi-lieue. Item ne sait ni oui onc dire que les dames fées y repérassent, mais a oui dire de son frère qu'on disait au pays qu'elle, Jeanne, avait pris son fait à l'arbre des dames fées. Mais dit qu'elle ne l'avait pas fait, et dit en outre que lorsqu'elle vint vers son roi, certains lui demandaient si, en son pays, il n'y avait point de bois qu'on appelait le bois chenu, car il y avait prophétie disant que de vers ce bois devait venir une pucelle qui ferait merveille. Mais la dite Jeanne a dit qu'elle n'y a point ajouté de foi.
Voilà donc pourquoi nous avons choisi de mettre ce texte en deuxième position au moment où vous évoquiez justement cette prophétie de Merlin et ce bois chenu. Ça veut dire, Colette Beaune, que lorsqu'on accueille cette femme, cette jeune fille, donc à la cour du roi, eh bien on l'interroge sur est-ce qu'elle vient d'un endroit où il y a un bois chenu. Parce que justement, cette fameuse prophétie de Merlin dont on parlait auparavant, eh bien elle était censée dire que la prophétesse allait venir de ce bois chenu.
Oui, c'est une des prophéties que Jeanne connaît quand elle arrive en France. Il y en a d'autres qu'elle ne connaît pas et qu'elle découvre à la cour, mais qui vont en gros dans le même sens. Il y avait une formidable attente. On attendait un sauveur. Il n'était pas dit que le sauveur serait une femme. Ça a plutôt été une surprise. Bien d'autres, comme l'évêque d'Embrun, voulaient que Dieu envoie un ange. Ça aurait été plus confortable que d'envoyer une adolescente de 18 ans. Et ça aurait posé moins de problèmes théologiques, surtout. Et puis, ce bois chenu, il y a aussi le problème de l'arbre aux fées.
Ah oui, alors on voit bien qu'il y a. Alors on comprend mal le texte, effectivement. Alors, parce que cet arbre aux fées, c'est donc cet arbre qui se situe à Domrémy. Vous en parliez, Périne, dans votre documentaire. Oui. Et cet arbre, donc, peut être considéré aussi comme un endroit qui pourrait être aussi touché par le diable ou un peu diabolique. Donc est-ce que c'est un endroit chrétien ou pas chrétien? Et donc, est-ce que ce bois chenu est une référence à la chrétienté ou au contraire au diable?
C'est un endroit qui est vraiment en marge. C'est un endroit qui est très folklorisé, puisque on y va avant Pâques, tous les ans, les garçons et les filles. On voit très bien que c'est un rite de fertilité pour faire pousser les récoltes. Mmh. C'est aussi un endroit où il y a à côté une fontaine qui guérit. Enfin, c'est un endroit où habitent les fées. Mmh. C'est un endroit où le seigneur du village, autrefois, rencontra sa première épouse qui lui donna beaucoup d'enfants et fit prospérer la lignée. Enfin, il y a toute une série de textes folkloriques qui sont liés au bois chenu. Alors, Jeanne dit toujours, non, je n'ai pas entendu mes voix sous l'arbre. J'ai entendu mes voix dans le jardin de mon père vers l'église. Mais on sait que son frère racontait le contraire et qu'elle avait bien entendu.
Et c'est pour ça qu'elle doit se justifier devant le tribunal.
Doit se justifier parce que l'arbre est quand même...
Ambigu.
Ambigu. Oui.
Périne,
oui, c'est ce qui ressort quand on lit ces textes du procès, il s'agit quand même d'un procès pour la piéger, pour lui faire avouer quelque chose. Bien donc sûr. On sent bien que elle est consciente de ce fait et qu'elle fait attention dans ses réponses. Et on voit qu'elle est au courant de certaines prophéties, pas au courant d'autres, qu'elle est plus ou moins au courant de ce statut de prophétesse. Alors, pas aussi bien qu'on peut l'être dans les cours ou que peuvent l'être les princes, mais qu'elle sent bien qu'il y a des enjeux entre ce qui relèverait de la superstition et ce qui relèverait de son statut de prophétesse.
André Vaucher.
Oui, les questions des juges ne sont absolument pas innocentes. D'un côté, ils veulent tirer Jeanne du côté de la fausse prophétesse en essayant de montrer que ses voix, c'était une forme c'est une illuminée, quoi, qui a cru des histoires qui lui passaient par la tête, mais qui n'avaient pas de fondement dans la réalité. Et d'autre part, que c'est une femme superstitieuse. Ils essaient de la tirer du côté de la religion populaire, de la culture folklorique, dirons-nous aujourd'hui, en montrant qu'elle s'adonnait à des pratiques...
Culture contre laquelle se bat l'Église officielle, d'une certaine façon.
Donc elle est doublement piégée, à la fois comme fausse prophétesse et comme superstitieuse.
Parce que le but, finalement, de ce procès, c'est quand même de prouver que cette jeune fille est hérétique et que donc le roi était couronné sacré par une hérétique. L'idée, c'est quand même de discréditer toute l'entreprise politique de Jeanne d'Arc.
Oui, et on ne pouvait pas lui faire un procès politique. Enfin, on aurait pu, mais c'était dangereux.
Mais c'était difficile.
Donc, on a choisi le biais, enfin, les organisateurs de l'opération Jeanne d'Arc ont choisi le biais du procès religieux de façon à discréditer totalement son opération.
Alors, Jean-Maurice, vous n'êtes pas encore intervenu. Vous êtes en duplex avec nous depuis Rouen. Vous avez co-dirigé un colloque en 1999 sur les images de Jeanne d'Arc et vous vous êtes intéressé à une personne dont on a parlé hier, donc Christine de Pisan, qui va mourir très peu de temps donc après l'épopée de Jeanne d'Arc et avant son procès, je crois, parce qu'elle meurt en 1430, si je ne me trompe pas. Elle va mourir à Poissy, près de Paris. Et Christine de Pisan, qui était du côté du roi Charles VII, raconte dans un dithier, alors vous pouvez nous expliquer peut-être ce qu'est un dithier, vous qui êtes spécialiste de littérature médiévale, Jean-Maurice, raconte cette épopée de Jeanne d'Arc jusqu'à aux abords de Paris, avec le ratage, évidemment, de la conquête de Paris. Quelle est l'importance de ce texte et pourquoi ce texte est important? Parce qu'il est d'abord contemporain de cette épopée du printemps 1429.
Il est important à plusieurs titres. D'abord parce que Christine de Pisan est un des plus grands écrivains du Moyen-Âge, qu'elle est silencieuse à cette époque-là depuis un certain temps, parce qu'elle est cloîtrée à Poissy, et que c'est son dernier texte qui est consacré à Jeanne d'Arc, et cela dès 1429. Ce texte confirme plusieurs choses. Il confirme que de son vivant, Jeanne d'Arc est considérée comme un personnage hors norme et déjà très connue. Pour parler d'elle, Christine de Pisan emploie des mots comme notoire, évident, il apparaît clairement, la chose éprouvée. C'est-à-dire que les événements sont rapportés, sont si célèbres qu'il va de soi que le lecteur les a présents à l'esprit.
Et est-ce que Christine de Pisan prend justement cette personnalité, cette émergence, cette arrivée impromptue de cette jeune fille, Jeanne d'Arc, comme étant justement un signe de prophétie, elle aussi?
Totalement. Jeanne d'Arc, sous la plume de Christine de Pisan, est liée au prophétisme. Et cela se manifeste de manière complémentaire, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que Jeanne d'Arc est annoncée par des prophéties, d'une part, et d'autre part, elle est elle-même prophétesse, c'est-à-dire en passe de réaliser sa propre prophétie. Alors Jeanne d'Arc est annoncée par des prophéties, Christine de Pisan le proclame au centre de son poème, comme s'il en était la clé de voûte, finalement. Et on retrouve à ce moment-là Merlin, dont on a parlé, et puis pour faire bonne mesure, on y ajoute Sibylle, Bède, qui sont censés, il y a 500 ans, avoir vu Jeanne d'Arc en esprit, avoir même vu qu'elle porterait bannière dans les guerres françaises.
Oui, allez-y, continuez.
Et puis Jeanne d'Arc, alors complémentairement, est elle-même prophète. Prophétesse. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments qui me paraissent importants dans ce domaine-là. D'abord, Jeanne d'Arc est mise sur le même plan. On y reviendra peut-être tout à l'heure parce que ça me paraît très important, cette question des modèles. Est mise sur le même plan que les héroïnes bibliques, bon, ce qui n'a rien d'original, mais il y a quand même un modèle littéraire là qui est appliqué et qui me paraît avoir façonné l'image de Jeanne d'Arc, y compris d'ailleurs chez Gerson. C'est l'influence de Boccace. On pourra y revenir tout à l'heure. Et puis, par son action, Jeanne d'Arc annonce la défaite complète des Anglais, l'unité de l'Église, de la chrétienté, la défaite des mécréants de toutes sortes, la conquête de la guerre sainte, bon, etc. Christine de Pisan inscrit vraiment Jeanne d'Arc dans un rêve messianique. Oui. Jeanne d'Arc est l'envoyée de Dieu, à tous les sens du terme. C'est un personnage charismatique.
Alors c'est important parce qu'on voit qu'on peut jouer justement sur ces questions de prophétie pendant cette période de la fin du Moyen-Âge, André Vaucher, sur différents registres. Un registre purement eschatologique, l'attente de la fin des temps, un registre
purement politique, à savoir est-ce que c'est le roi de France ou le roi d'Angleterre qui a raison, d'autres registres qui sont liés à la question de qui doit diriger la chrétienté et comment, et que tous ces registres-là peuvent se retrouver, par exemple, comme vient de l'expliquer Jean-Maurice, dans un même texte contemporain de l'épopée de Jeanne d'Arc.
Absolument, il n'y a pas de distinction entre le politique et le religieux à cette époque, en tout cas pas clair au niveau de Jeanne d'Arc. Et donc, par exemple, la mission de Charles VII, c'est d'abord de chasser les Anglais hors de France, mais ensuite de prendre la tête de la chrétienté, d'aller à Jérusalem, comme tout roi eschatologique qui se respecte. C'est ce que essaiera de faire Charles VIII un peu plus tard, quand il partira à la conquête de l'Italie, c'est avec l'idée d'aller ensuite en Terre Sainte. Donc il y a une sorte de, je dirais, d'ensemble globalisant du religieux et du politique à cette époque.
Oui, il faut dire qu'avant Jeanne d'Arc, à la fin du XIVe siècle, il y a un certain Télesphore de Cosenza que j'ai découvert en vous lisant, évidemment, dans votre livre, André Vaucher, qui compose vers 1360 un texte qui dit que Charles, fils de Charles, donc, doit vaincre le pape Antéchrist, donc c'est au moment, effectivement, de la question papale, donc, et reconquérir les lieux saints. Donc il y a une sorte d'autre personnage qui, comme ça, quelque part, dans un texte qui est assez connu à cette période-là, qui annonce que eh bien, ce Charles, il va avoir un autre rôle que de reconquérir le royaume de France, mais également d'aller reconquérir les lieux saints. André Vaucher, puis Colette Beaune.
C'est un schéma prophétique et eschatologique qu'on retrouve partout à l'époque, dans tous les cas. Par exemple, Catherine de Sienne, elle attend tout ça du pape. Elle dit que le pape revienne à Rome, ensuite il réformera la chrétienté, et quand il aura réformé la chrétienté, il passera en Orient, il vaincra les Turcs, il libérera Jérusalem. Donc on le retrouve jusque chez Christophe Colomb quand il parle des rois catholiques.
Colette Beaune.
Ce caractère messianique de Jeanne d'Arc, ça a longtemps été finalement assez mal connu, assez mal compris. Et on a l'habitude de voir Jeanne d'Arc comme une prophétesse patriotique dont la mission serait limitée au royaume de France. Or, beaucoup de textes nous disent le contraire. Sa mission concernait toute la chrétienté et aussi la fin des temps. Et quand on cherche les textes allemands ou italiens, c'est ça qu'on trouve.
Jean-Maurice ?
Oui,
pour poursuivre justement sur ce que vous dites.
La comparaison que Christine de Pizan, l'assimilation même que Christine de Pizan fait avec un certain nombre de prophétesses bibliques, me paraît aller complètement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas, Christine de Pizan, une mise en perspective historico-religieuse qui éclairerait Jeanne par le passé. Elle procède à une réactivation des figures bibliques projetée sur l'image de la pucelle. Et elle fait référence notamment à Esther, Judith et Déborah. Alors, les deux dernières sont intéressantes parce que Judith, c'est une jeune veuve qui réussit à libérer une ville assiégée par les Assyriens. Et puis, Déborah, c'est une prophétesse juive qui inspire la victoire des Israéliens. Alors, l'assimilation à Déborah peut surprendre parce que Déborah, c'est une vieille femme seulement. Alors que Judith, elle, est plus jeune. Seulement, Déborah, elle a un immense avantage, c'est qu'elle est une prophétesse. Et c'est bien pourquoi on assimile Jeanne d'Arc à Déborah.
Périne Cavant.
Et est-ce qu'on sait, Colette Beaune, comment se présentait Jeanne d'Arc ? Est-ce qu'elle-même se sentait ou se considérait, se présentait en tant que prophétesse ? Est-ce qu'elle avait conscience de tous ces enjeux ? Comment elle se présentait par rapport à ces missions qu'elle avait ?
Elle se présente comme une envoyée de Dieu qui porte un message. Donc déjà, c'est obligatoirement une prophétesse. Mais il n'est pas sûr qu'elle ait eu à l'origine, avant de débarquer à Chinon, l'idée de l'importance politique que cette prophétie pouvait revêtir. À propos du modèle biblique, il y a quand même une chose très importante. Jusque-là, les prophétesses qui venaient à Chinon n'avaient pas l'intention d'accomplir elles-mêmes la prophétie.
Ah oui.
Or, Jeanne d'Arc
est
la première à passer à l'action.
Comme Judith.
Et en ce sens, elle reboucle avec le modèle biblique.
Eh oui, bien sûr, c'est ça. C'est, voilà. C'est ce que cela dit, en fait, à ceux qui la reçoivent. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il faut aussi
elle
que.
Va être une autre Déborah.
Voilà, et qui sont pétris de cette culture biblique qu'on a peut-être un peu oubliée aujourd'hui, André Vaucher.
Voilà, il y a la culture biblique, mais dans le texte dithier de Jeanne d'Arc, il y a Merlin, Bède et la Sibylle. Et la Sibylle, c'est extrêmement intéressant parce que
c'est une culture.
D'abord, c'est une culture antique récupérée par l'Église à travers les livres sibyllins qui ont été christianisés dans le Haut Moyen-Âge, disons, pour faire court, et qui refont surface à partir du XIIe siècle, surtout, et qui vont être utilisés massivement à la fin du Moyen-Âge, à tel point qu'on représentera les Sibylles à la chapelle Sixtine. Parallèlement aux prophètes, on a une révélation divine par l'intermédiaire des Sibylles. Et alors, les Sibylles, ce sont des figures païennes, mais entièrement féminines. Et là encore, on retrouve cette féminisation du prophétisme qui est une caractéristique des derniers siècles du Moyen-Âge.
Périne Quinvran.
Oui, parce que ce qu'on sait aussi, c'est qu'elle se présente à vos couleurs, à Catherine Leroyer, en disant « Mais vous n'avez pas entendu parler de cette prophétie qui dit qu'une femme libérera le royaume. » Donc elle est au courant, en tout cas, alors pas bien sûr de toute cette littérature, non, de toutes ces prophéties, non, mais en tout cas, des petites prophéties populaires qui circulent dans la population.
Un autre extrait donc du procès de condamnation, procès d'office, sixième interrogatoire privé, 17 mars 1431, Nathalie Canouille.
Interrogée si sa marraine qui a vu les faits est réputée sage-femme, répondit qu'elle est tenue et réputée bonne prude femme, non pas devineresse ou sorcière. Interrogée comme elle sait que Sainte Catherine et Sainte Marguerite haïssent les Anglais, répondit « Elles aiment ce que Dieu aime et haïssent ce que Dieu est ». Interrogée si Dieu hait les Anglais, répondit que de l'amour ou de la haine que Dieu a pour les Anglais, elle ne sait rien. Mais c'est bien qu'ils seront boutés hors de France, excepté ceux qui y mourront, et que Dieu enverra victoire aux Français. Interrogée quelles armes elle offrit à Saint-Denis, répondit qu'elle offrit un blanc harnois entier tel qu'il convient à un homme d'armes, avec cette épée qu'elle gagna devant Paris. Interrogée à quelle fin elle offrit ses armes, répondit que ce fut par dévotion et pour ce qu'elle avait été blessée devant Paris. Interrogée si elle le fit pour qu'on adorât ses armes, répondit que non. Interrogée pourquoi son étendard fut plus porté en l'église de Reims au sacre que ceux des autres capitaines, répondit que son étendard avait été à la peine. C'était bien raison qu'il fût à l'honneur.
Voilà pour ce troisième texte lu par Nathalie Canouille. André Vaucher, vous vouliez intervenir.
C'est significatif que le journal du bourgeois de Paris, qui est hostile à Jeanne d'Arc, quand il avait laissé...
Alors, il faut peut-être dire à nos auditeurs qu'ils ne connaissent pas forcément ce très long, très grand journal.
Une chronique tenue par un anonyme. Qui
contemporain, justement.
Contemporain des événements, parisien, et qui appartient au camp bourguignon, donc... hostile à Jeanne d'Arc. Et quand il parle de Jeanne et justement de son charisme prophétique, il dit, et elle disait, telle chose adviendra pour vrai. C'est-à-dire, elle annonçait toujours ce qu'elle allait faire comme une certitude. Donc, elle croyait, non seulement elle croyait à sa mission, mais ce qui a frappé les contemporains, c'est qu'elle annonçait toujours les objectifs qu'elle prétendait réaliser.
Mais pourquoi cette... intérêt particulier pour cette période du Moyen-Âge, justement, pour ce qui va advenir, André Vaucher. Est-ce qu'on a connaissance, justement, de cet état d'esprit, pourrait-on dire ? Bon, c'est vrai qu'on est dans cette guerre qui se poursuit depuis longtemps, qu'il y a eu la Grande Peste qui a décimé, donc au milieu du XIVe siècle, qui a décimé un tiers des populations européennes, je crois, ou quelque chose dans ce genre-là. Ouais. Donc, effectivement, avec une forte présence de la mort, mais pourquoi cette quête de ce qui va advenir à ce moment-là, André Vaucher ?
Je crois qu'il y a une... Effectivement, l'époque est tragique.
Mais il y en a eu d'autres.
Il y en a eu d'autres, c'est ça. Mais il y a l'idée qu'on arrive quand même, on doit arriver à connaître plus ou moins le futur. Voilà. Et il y a toujours eu, bien sûr, dans l'humanité, ce sentiment. Mais à la fin du Moyen-Âge, ça devient une obsession... parce qu'on a l'impression qu'on pourra y arriver. On pourra y arriver par une double voie, comme on disait tout à l'heure, la voie donc, du prophétisme d'origine divine, et puis la voie, je dirais scientifique, entre guillemets, par l'intermédiaire de l'astrologie. C'est pour ça que les conseillers des princes et les princes eux-mêmes s'entourent d'astrologues et de prophètes. Alors, je pense que l'avenir apparaît tellement incertain dans cette période, il y a des retournements brutaux, des gens qui changent de camp, etc., qu'on a besoin de se raccrocher à cette possibilité de prévoir l'avenir.
Colette Beaune.
Par exemple, lorsque les princes naissent, on fait aussi tirer leur horoscope pour savoir de quel type de règne à quel type de règne il faut s'attendre, en quelque sorte. Et puis, lorsque l'on va se battre, il arrive qu'on cherche des jours fériés, des jours de bon augure. Voilà. Et ah oui. On évite d'autres jours. Et on possède des calendriers anglais en particulier, avec les jours de bon augure, où l'on pourra convoquer les assemblées ou affronter les ennemis. Et puis les autres, il faut rester chez soi.
Périne Cabran.
Et si on revient au procès, donc, on voit bien que les juges essayent de coller sur Jeanne d'Arc une image. Alors ça change, parfois ils essayent d'en faire une devineresse, parfois ils essayent d'en faire une idolâtre, parfois ils essayent d'en faire une magicienne. Voilà, on voit qu'ils ont plusieurs angles d'attaque, et finalement ce qui est intéressant, c'est de remarquer que ces attaques se dégonflent au fur et à mesure et qu'ils changent d'angle d'attaque régulièrement.
Il y a toutes sortes de choses qu'ils ne pourront pas prouver. Ils envisageaient en particulier de prouver la sorcellerie, qu'ils ne pourront évidemment pas prouver. La magie, ils n'y arriveront pas. Pas non plus, elle va finalement être condamnée surtout à cause des voix et à cause de l'abidom.
Oui,
ce sont voilà. Les deux choses qui vont rester au bout du compte après que l'accusation se soit dégonflée progressivement.
Jean-Maurice, tout sur ce dont on vient de parler depuis une dizaine de minutes maintenant dans notre débat, vous qui êtes à Rouen.
Il est évident que pour Christine de Pizan et pour d'autres aussi, hein, dans d'autres textes, pseudo-littéraire, c'est cet aspect « cela doit advenir » qui intervient. C'est un hasard de l'histoire, évidemment, que Christine de Pizan s'interrompe au moment du sacre de Reims, donc au moment où Jeanne d'Arc paraît invincible. Ouais. Mais ce hasard est en même temps, je dirais, une nécessité d'écriture, c'est-à-dire que Jeanne d'Arc doit absolument être celle qui vainc. Et cette victoire, elle est aussi, je crois, conditionnée par un certain nombre de modèles littéraires. C'est-à-dire que finalement, l'histoire de Jeanne d'Arc, elle met en œuvre la plupart des invariants narratifs que l'imaginaire collectif attribue aux héros légendaires.
Oui.
La prédestination, qui est marquée notamment par des prophéties qui annonce sa venue, les origines obscures, le changement de pays, le changement d'État, l'apprentissage très rapide du métier des armes, la reconquête, etc. D'une part. Et puis l'autre part, c'est difficile de mesurer l'importance de cela, mais je crois que ça a une importance. L'image de Jeanne d'Arc est sous la plume des intellectuels, ce qu'on pourrait appeler les intellectuels, hein, par anachronisme, est sans doute façonnée par un modèle littéraire très en vogue à l'époque, qui est le modèle de la femme guerrière, modèle au centre duquel se trouve une force virile liée à une totale chasteté, qui est développée par Boccace. Un texte de Boccace, un De Mulieribus Clarissimis, bon, des femmes illustres, qui est traduit en 1401, qui est très utilisé par Christine de Pizan dans des textes antérieurs de 30 ans à peu près, développe ce modèle-là. Et je me demande si, consciemment ou non, chez Christine de Pizan, mais aussi chez d'autres, comme par exemple Gerson, hein, qui a été très lié à Christine de Pizan dans la querelle du roman de la Rose, si ce modèle-là n'a pas aussi conditionné celui de Jeanne d'Arc pour faire d'elle quelqu'un susceptible d'être invincible.
Une femme en habit d'homme, donc, procès de condamnation, la cause de relapse, constat de relapse, 28 mai 1431, Nathalie Canouy.
Or, comme l'a dit Jeanne, était vêtue d'un habit d'homme, savoir robe courte, chaperon, pourpoint et autres vêtements à l'usage des hommes, cet habit, elle l'avait cependant naguère rejeté sur notre ordre et avait pris habit de femme. Nous l'avons interrogée pour savoir quand et pourquoi elle avait repris cet habit d'homme et qui le lui avait fait prendre. Cette Jeanne répondit qu'elle avait pris de sa volonté, sans nulle contrainte, et qu'elle aimait mieux l'habit d'homme que celui de femme. Interrogée pour quelle cause elle l'avait repris, répondit parce qu'il lui était plus licite de le reprendre et d'avoir habit d'homme, étant entre les hommes, que habit de femme. Item dit qu'elle l'avait repris parce qu'on ne lui avait pas tenu ce qu'on lui avait promis, c'est à savoir qu'elle irait à la messe et recevrait son sauveur, et qu'on la mettrait hors des fers. Item répondit qu'elle aimait mieux mourir que d'être au fer. Mais si on veut la laisser aller à la messe et ôter hors des fers et la mettre en prison gracieuse, elle sera bonne et fera ce que l'Église voudra. Interrogée sur ce que les voix lui ont dit, répondit qu'elles lui ont dit que Dieu lui a mandé par Sainte Catherine et Marguerite la grande pitié de la grande trahison qu'elle a consentie en faisant abjuration et révocation pour sauver sa vie. Et qu'elle se damnait pour sauver sa vie. Item dit que si elle disait que Dieu ne l'avait pas envoyée, elle se damnerait, et qu'en vérité, Dieu l'a envoyée. Item dit que tout ce qu'elle a dit et révoqué ce jeudi, elle le fit et dit seulement par peur du feu. Item dit qu'onque ne fit rien contre Dieu ou la foi, et que ce qui était contenu en la cédule de l'abjuration, elle ne le comprenait point. Après avoir ouï ces déclarations, nous la quittâmes pour procéder plus avant, ainsi que de droit et de raison.
Alors Colette Beaune, on voit bien qu'effectivement, dernier argument pour condamner Jeanne, c'est cette question de l'habit d'homme ou de l'habit de femme. On a beaucoup glosé autour de ces questions-là.
Lorsqu'elle fait les réponses qu'on vient de lire, le greffier écrit dans la marge, elle est cuite.
C'est vrai ?
Oui. Le greffier a tout de suite compris que là, c'était le feu. Parce que l'habit d'homme, là, ils ont un texte derrière. Il est interdit à une femme de porter un habit d'homme. C'est dans le Deutéronome 22,15, je crois, si je me rappelle bien. Et c'est une interdiction qui ne souffre pratiquement pas d'exception, sauf le cas de nécessité, comme l'avait expliqué Thomas d'Aquin. Bon, donc, si vous voulez échapper à la mort, si ponctuellement vous avez à être entre les hommes, comme elle dit, là...
Mais c'est quand même ce qui lui est arrivé. C'est quand même
Ça fait plusieurs années. Vous ne pouvez pas plaider la nécessité perpétuelle.
Ouais, c'est ça.
La nécessité, par nature, c'est l'exception.
Oui.
Et donc, elle aurait dû reprendre l'habit de femme, théoriquement.
Oui.
Seulement pour elle, l'habit d'homme, ce n'est pas qu'un habit. C'est le symbole que les voies sont bonnes, que la mission est vraie. Et donc, c'est quelque chose à laquelle elle ne peut pas renoncer.
Périne Gavran.
Et puis, il y a aussi ce qui est évoqué dans le texte. Elle parle de prison gracieuse. C'est un procès pour hérésie au départ. Et elle ne devait pas, elle n'était pas censée être enfermée dans une prison et gardée par des hommes. Et il se trouve qu'elle est dans des conditions de détention qui ne sont pas celles qu'elle aurait dû connaître à l'époque. Et ce qui explique qu'elle veuille garder aussi son habit d'homme étant gardée par des hommes pour garder sa chasteté.
André Vaucher.
Oui, c'est un débat très intéressant pour l'histoire du gender, je dirais, parce que là, on touche à un nœud fondamental. Colette Beaune a bien rappelé tous les interdits qui pesaient sur l'habit d'homme pour les femmes. Bien sûr qu'il y a des nécessités, la guerre, la prison, elle est beaucoup mieux protégée, disons, par rapport à ses gardiens en particulier, en habit d'homme. Le porter de façon permanente, ça, c'est une provocation. Et alors, c'est une provocation, et comme vous venez de dire, il y a à la fois, de la part de Jeanne d'Arc, elle est assumée volontairement, cette provocation, pour revendiquer un statut viril. Il faut quand même bien voir, justement, on a évoqué à propos de Bocasse, mais c'est un thème qui est dans l'air, effectivement, à ce moment-là, c'est celui de la femme virile qui est capable d'égaler l'homme, qui n'a pas la faiblesse qui est censée être caractérisée la femme dans les mentalités de l'époque. Mais il y a aussi un autre thème, peut-être sous-jacent, dans la géographie, dans les vies de saints du Moyen-Âge, il y a un thème qui revient de temps en temps, c'est celui de la femme déguisée en homme. Une femme qui entre dans un monastère, par exemple, en se faisant passer pour un homme, et puis elle meurt, et on découvre au moment où on l'enterre que c'est pas un moine, c'est une moniale, c'est une femme. Et alors ça, c'est un thème qui a aussi pas mal frappé les mentalités, et je pense, traduit aussi cette vocation de la femme à devenir au moins l'égale de l'homme.
Dans les scènes qui lui sont apparues, il y a des femmes qui se sont déguisées en hommes.
Et Jean-Maurice, par exemple, c'est quand Christine de Pizan parle de Jeanne d'Arc dans son Ditier en 1429, elle évoque justement ce statut aussi qu'elle veut protéger, ce statut de pucelle, de pucelette même, dit-elle, une partie de son texte.
Oui, bah oui, parce que c'est un élément important, je crois, du providentialisme. C'est-à-dire qu'il faut concilier la fragilité de la jeune fille vierge d'un côté et de l'autre côté son invisibilité, à laquelle on peut croire à l'époque de la rédaction du texte. Et seule une volonté miraculeuse de la Providence permet de surmonter la contradiction entre la fragilité de la pucelette et puis sa force virile qui semble absolument invincible à ce moment-là. Et je crois que cette conjonction des contraires, elle est au cœur du mythe joannique naissant sous la plume de Christine de Pizan, et on la retrouvera modulée, alors là, au cours du temps, de manière différente.
Tout de même, Colette Beaune, on peut se poser la question, alors que pullulent, on l'a expliqué, les prophètes et les prophétesses dans cette période entre 1350 et 1450, est-ce qu'il y a eu l'équivalent anglais
de Jeanne d'Arc. Il n'y a pas eu de Jeanne anglaise. Personne ne s'est porté auprès du roi d'Angleterre pour lui dire qu'il avait avec lui le Dieu et son armée allait pouvoir vaincre et enfin remporter la victoire face au roi de France, par exemple.
D'un côté, les Anglais étaient vainqueurs, donc ils n'en avaient pas trop besoin. C'est vrai.
Techniquement, c'est vrai. Mais ça aurait pu être plus vrai plus tard.
Et de l'autre, il y a quand même des prophètes pro-anglais, mais pas les pas de femmes.
Ils utilisaient Sainte-Brigitte.
Mais ils utilisaient Sainte-Brigitte. Il y a eu Vincent Ferrier, je crois, aussi, qui est venu raconter au roi d'Angleterre qu'il serait victorieux et aurait descendance. Donc il y a bien aussi, mais pas dans les mêmes proportions qu'en France. Nous, on était battus. Donc, on en avait besoin.
André Vaucher, le Lys joue un rôle important aussi dans cette bagarre franco-anglaise, puisque le Lys illustre est promu par les clercs autour de Charles VII. Expliquez-vous, pour expliquer justement les victoires de Jeanne d'Arc, et puis que ça répond à une autre prophétie anglaise plus antérieure, donc qui disait que le Lys allait régner après la bataille de Poitiers, justement.
C'est ça, donc le Lys, évidemment, c'est le symbole de la monarchie française. Donc là, on est en plein... les enjeux de la guerre de Cent Ans, et le Lys a été d'abord au cœur d'une prophétie en latin forgée par les Anglais, et ensuite, en 1429, au moment du sacre, comme l'a bien montré Colette Beaune, on a forgé du côté français une contre-prophétie, toujours centrée sur le Lys, mais
et
disant
le Lys,
exactement
c'était un peu
le contraire.
Embêtant, c'est quand même une fleur fragile, comme tous les héraldistes anglais le font remarquer, alors que le léopard,
c'est un peu plus,
c'est quand même un peu plus viril et
de force.
Efficace.
Dernier texte qui va nous être lu par Nathalie Canouy, procès de condamnation, procès d'office, quatrième interrogatoire privé, 14 mars 1431.
Interrogée si depuis que ses voix lui ont dit qu'elle ira finalement au royaume de paradis, elle se tient assurée d'être sauvée et qu'elle ne sera point damnée en enfer, répondit qu'elle croit fermement que ses voix lui ont dit qu'elle sera sauvée, aussi fermement que si elle y était déjà. Et aussi quand on lui ait dit que cette réponse était de grand poids, répondit-elle, je la tiens pour un grand trésor.
On vous voit toujours aussi passionnée, Colette Beaune, à écouter ces textes-là. Vous ne vous lassez pas. Je posais la même question à Philippe Contamine. On ne se lasse pas.
C'est des textes extraordinaires. Moi, je les ai lus pour la première fois, j'avais 17 ou 18 ans. J'avoue que ça m'a absolument fascinée. Quelqu'un qui va mourir et qui n'a pas peur. C'est très étonnant. Et une telle intelligence dans les réponses.
Telle droiture, je dirais.
Telle droiture et aussi ce mépris passé outre. Allez donc le lui demander. Quand elle ne veut pas répondre, elle ne répond pas.
C'est une belle année qui commence pour tous ceux qui s'intéressent à Jeanne d'Arc. Des colloques en nombre, 3, 4 au moins qui vont se dérouler pas à Paris d'ailleurs.
Pas du tout à Paris. Je suis très contente que ce soit la province qui ait pris des initiatives pour célébrer des Jeanne d'Arc
c'est
à
difficile.
Différents endroits.
Les premiers qui vont venir, le premier, ce sera les journées Jeanne d'Arc à Blois. Donc, vous serez donc à l'honneur à Blois, où généralement on se retrouve pour les rendez-vous de l'histoire à l'automne. Mais là, c'est au printemps, donc 13 et 14 avril 2012, les journées donc, au Château Royal, salle de conférence, elle, Gaston d'Orléans, organisée par la Société des Lettres et Sciences de Blois. Donc, 12 historiens pour parler de Jeanne d'Arc. Et puis, il y aura ensuite Montpellier 3, le 10 et 11 avril. Alors, en même temps, Jeanne d'Arc, un mythe méridional contemporain. On aura ensuite à Don Rémy le 24, 25 et 26 mai. Don Rémy vont couleur, un colloque de Don Rémy à Tokyo, Jeanne d'Arc et la Lorraine, parce qu'il y a aussi Tokyo dans le lot, André Vaucher.
Ah, je ne sais pas, je suis au courant.
C'est assez intéressant.
Mon Jeanne d'Arc est en train d'être traduit en japonais.
Ah voilà, c'est pour ça alors peut-être. Et puis au Centre d'études supérieures sur la fin du Moyen-Âge, le colloque Jeanne d'Arc, histoire et mythe, Orléans, c'est donc le 7 et 9 mai 2012 avec beaucoup d'intervenants. Donc à Orléans, 7 et 9 mai. À Don Rémy vos couleurs 24, 25 et 26 mai, à Montpellier le 10 et le 11 avril et le 13 et 14 avril à Blois. Merci donc à toutes et à tous d'être venus pour parler de Jeanne d'Arc dans cette semaine consacrée à Jeanne. Donc je rappelle Jean-Maurice que vous aviez dirigé un colloque images de Jeanne d'Arc donc publié au PUF. Jeanne d'Arc, vérités et légendes, c'est en collection Timpus, Colette Beaune, mais également votre Jeanne d'Arc, on le trouve également en poche. Et puis très récemment, Prophète et prophétisme sous votre direction, parce que ça vient juste de sortir, André Vaucher, au Seuil. Merci encore à tous les trois.